Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors, j'avais prévu, d'enregistrer cette émission au moment où la COP28 devait être terminée. Et puis, voilà que l'on joue les prolongations. Donc, je vais vous parler d'un texte final qui mécontente tout le monde et qui sera sans doute encore un peu différent quand vous entendrez cette émission, vendredi. Donc la COP28 a joué les prolongations puisqu'elle a cherché un compromis entre ceux qui défendaient les énergies fossiles, l'Arabie, et puis essayer d'accommoder les pays pétroliers qui étaient emmenés donc par cette Arabie saoudite et par Sultan Al-Jaber, mais qui est jugé loin d'être assez ambitieux par les Européens, les Américains ou encore les États insulaires. Ah, la COP28 avait pourtant bien démarré, puisqu'enfin on aboutissait à un versement financier, certes insuffisant, mais conséquent quand même, au fond, dommages et pertes. Enfin, pertes, c'est dommage. Et de nombreuses promesses de financement ont été faites tout au long de cette COP. Donc, finalement, on pourrait se dire que si cette COP28 se finissait sans texte, comme ça avait été le cas à Copenhague, après tout, ce serait peut-être pas mal, parce que finalement, mieux vaut parfois une absence de texte qu'un mauvais texte. Mais est-ce que ça n'aurait pas remis en question, justement, toutes ces décisions, et ces décisions financières qui sont absolument indispensables, puisque, enfin, un premier accord vient d'être trouvé où, sur le fond dommages et pertes pour la relation entre les pays du Nord et les pays du Sud. En fait, c'est à mi-parcours des discussions que tout va s'enflammer. Une lettre de l'OPEP, divulguée par l'AFP, va mettre le feu aux négociations.
Les émissions de CO2, elles sont causées à 75% par les énergies fossiles. Donc si on veut sérieusement réduire les émissions de CO2 qui causent le dérèglement climatique, il va falloir diminuer notre utilisation d'énergie fossile. C'est aussi simple que cela, c'est ce que nous dit la science. Et aujourd'hui, nous tenons, dans cette discussion de la COP28, une occasion unique d'avoir enfin, parce que ça n'y figure toujours pas, d'avoir enfin un accord sur la façon dont on sort progressivement des énergies fossiles. Donc, heureusement, le secrétaire général de l'OPEP n'est pas dans la salle de négociation, mais moi, je le dis très clairement à la présidence émirati, il ne faut pas se laisser impressionner par cette prise de position. Nous devons absolument avancer sur cette question des énergies fossiles. Elle n'est pas facile, mais elle est essentielle si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
Alors, vous venez donc d'entendre la position d'Agnès Pannier-Runacher, qui est notre ministre de la Transition énergétique et qui, à mi-parcours, donc, espérait encore qu'on allait pouvoir trouver un accord. Et pendant une semaine, tout le monde a discuté pour essayer de lever les blocages sur l'accord final. Le président Émirati, de la COP28 a proposé lundi un nouveau texte, se voulant être une voie médiane pour la réduction des énergies fossiles dans le monde. Alors, son nouveau texte faisait 28 pages, incluant désormais plusieurs vœux du camp des pays producteurs ou exportateurs de pétrole, la mention des technologies balbutiantes, du captage et du stockage du carbone exigé pour continuer à pomper des hydrocarbures. Et puis, il appelle à la réduction à la fois de la consommation, bien sûr, et de la production des énergies fossiles, d'une manière juste, ordonnée et équitable. Voilà les textes, je cite, de façon à atteindre zéro net, c'est-à-dire la neutralité carbone, d'ici, avant ou autour de 2050, comme préconisé par la science. En revanche, et c'est un point central et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres, il ne mentionne plus le mot « sortie » ou même « réduction » concernant les énergies fossiles. Une position qui va faire écho donc à celle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La puissante institution avait adressé une lettre interne à ses pays membres et le document révélé par l'AFP les exhortait à bloquer tout accord évoquant un abandon des énergies fossiles. L'OPEP avait averti que les pressions injustifiées et excessives contre les énergies fossiles pourraient atteindre un point de bascule avec des conséquences irréversibles. De quoi mettre la peur au sein de l'Assemblée et notamment de tous les producteurs de pétrole. Le nucléaire et le solaire ont été aussi promus comme jamais à cette COP à Dubaï. Une vingtaine de pays ont appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050. On aura l'occasion d'y revenir par une émission spéciale consacrée au nucléaire. Et elle a aussi demandé le triplement des énergies renouvelables, ce qui est extrêmement important. Alors, donc, même si Macron, effectivement, nous a redit que l'énergie nucléaire était une énergie propre pour lui et qu'il fallait effectivement la relancer. Ce qui n'est pas du tout l'avis, bien sûr, de tous les présents. Alors, pour l'instant, on est donc sur une absence de texte satisfaisant. Peut-être que d'ici la fin de la semaine, bien sûr, on aura finalisé cette COP28, mais on s'en souviendra comme étant quelque chose qui finalement ne nous convient pas du tout.
Après une longue nuit de prolongation et de débats, dès l'ouverture à 11h10 mercredi 13 décembre, le président sultan Al-Jaber a annoncé l'adoption d'un nouveau texte. Un accord de compromis qui ne mentionne pas la sortie progressive phase-out, mais la transition hors, transition away des énergies fossiles. Une mention qui est une première historique.
Nous venons de recevoir le texte de la présidence de la COP28. Ce texte, il est insuffisant. Il y a des éléments qui ne sont pas acceptables en l'état. C'est une déception.
Alors maintenant, nous allons parler d'un tout autre sujet, puisque nous allons aborder une des grandes nouvelles qui fait vibrer tout Montpellier, celle des transports, des transports en commun gratuits. Ça fait une semaine, bien plus, des mois que nous voyons passer des trams, nous disant que l'égalité, effectivement, est liée à tout ce problème des transports en commun gratuits. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Louis Roumégas.
Bonjour.
Alors, Jean-Louis, vous deviez être en dialogue avec Julie Fraîche, normalement.
Elle vous a pas répondu ?
Elle ne m'a pas répondu, voilà.
C'est dommage.
Donc, on n'aura pas d'avis. Alors, on va écouter, pour la remplacer, Michaël Delafosse, nous parlant de son projet.
C'est l'engagement, la promesse que j'avais fait lors de mon élection. C'est déjà gratuit pour tous les habitants de la métropole le week-end, pour les moins de 18 ans, pour les plus de 65 ans et dans 100 jours pour 500 000 personnes. La gratuité des transports, c'est la grande mesure en faveur du climat et c'est la grande mesure qui est en faveur du pouvoir d'achat. C'est Montpellier qui va de l'avant et vous verrez, demain, ce sera formidable pour les habitants de la métropole. Mais tout le monde dira, il faut faire la gratuité des transports comme à Montpellier. On en attend plein de choses. Réduire nos émissions de CO2, protéger tous ces hommes et ces femmes qui peinent avec le prix de l'essence qui est à 2 euros le litre. On en attend des réductions de nos émissions de CO2, je le disais. Donc c'est un changement de paradigme.
Alors, donc Jean-Louis, vous venez d'entendre Michaël Delafosse. Alors vous savez qu'il a dit qu'il y avait des grincheux qui, effectivement, n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette mesure. Alors, bon, c'est un peu paradoxal. Vous êtes écolo et vous feriez partie des grincheux.
Oui, en tant qu'écologiste, ma préoccupation, c'est comment on transfère effectivement des passagers depuis la voiture vers les transports en commun ou les mobilités douces, la marche à pied, le vélo, etc. Ça, c'est le vrai sujet. Et toute la question, alors pourquoi d'abord, je voudrais rappeler pourquoi, d'abord pour des raisons de santé, de qualité de l'air, pas tellement de climat, le climat bien sûr, mais bon, Michael de la Fosse a une vision un peu
le climat c'est 35% quand même, hein, les voitures.
Oui, mais la première raison pour laquelle il faut diminuer la part de la voiture en ville, c'est la qualité de l'air. Qu'il ne faut pas confondre avec le climat. Là, on parle de pollution locale, de particules fines, de maladies respiratoires et pas tellement de CO2. Le problème, c'est la santé avec les particules fines ou des polluants et pas du tout la question du CO2 et du climat. C'est la priorité, c'est ça. Puis, il y a l'encombrement automobile, la saturation à Montpellier, qui est liée aussi à une politique d'urbanisme qui consiste à bétonner, à construire, à faire venir de plus en plus de populations. Et donc à aggraver ces problèmes de déplacement.
Surtout alors qu'on l'exporte de plus en plus vers l'extérieur.
Tout à fait, tout à fait. Et donc la vraie question qu'il faut poser quand on est écologiste, c'est est-ce que cette mesure de la gratuité va réellement permettre de diminuer la part des déplacements automobiles, permettre à des automobilistes de laisser leur voiture pour aller vers les transports en commun. C'est ça la
alors,
question.
Alors, vous en pensez quoi alors?
Je pense que c'est une vision un peu simpliste que de dire que la gratuité va tout résoudre. Pourquoi on va vers les transports en commun? Quels sont les critères, hein, toutes les enquêtes d'usagers, les collectifs des usagers de Montpellier, la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports, enfin tout le monde est unanime pour définir ces critères. Et tous ces critères, on peut les résumer dans le mot qualité du service. Alors la qualité du service en transport en commun, c'est quoi? C'est d'abord la fréquence. La fréquence. Si vous avez un bus ou un tram toutes les 10 minutes, c'est plus attractif qu'un tram ou un bus qui passe toutes les heures. Hein. Vous préférez un tram gratuit toutes les heures ou un tram un peu payant, mais toutes les 10 minutes. Je crois que tout le monde vous dira qu'il vaut mieux un tram fréquent toutes les 10 minutes que même s'il faut payer une petite partie. Il y a l'amplitude horaire aussi. Si les transports en commun s'arrêtent à 10 heures du soir, comme c'est le cas de beaucoup de lignes à Montpellier, pour les bus en tout cas, évidemment, ça ne favorise pas les transports en commun. Les jeunes qui sortent le soir vous le diront, ils aimeraient.
Alors, il y a eu un effort qui a été fait au moment quand même des grandes, des grandes transhumances, c'est-à-dire au moment de la sortie des facs et des lycées. On voit quand même que les trams se succèdent maintenant.
Oui, mais l'amplitude horaire n'est toujours pas extraordinaire et c'est bien des problèmes. Il y a le confort et la sécurité. Si vous avez un tram ou un bus qui sont bondés, vous savez qu'il y a beaucoup d'arrêts où les gens sont obligés de laisser passer la rame et attendre le tram suivant parce que c'est plein à craquer. Donc ça, ce n'est pas très attractif.
Et là, ça va se multiplier très certainement le samedi. On s'aperçoit le samedi, notamment au moment où les gens vont faire leurs courses, que les trams sont bondés. Alors le samedi, on a des amplitudes justement. On voit ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire qu'on attend davantage les bus, on est plus nombreux et on va l'être encore plus avec la gratuité. Donc, c'est un vrai problème.
Exactement. Ça va aggraver ce problème. Donc, le tram sera gratuit, mais vous ne pourrez peut-être pas monter dedans à certains arrêts, à certaines heures. Ça aussi, c'est un problème. L'autre critère, c'est la rapidité du trajet. Si vous avez une heure de trajet pour arriver à destination, c'est dissuasif. Vous allez certainement choisir un autre moyen de transport. Et le trajet, c'est il faut que les lignes soient directes, il faut que le maillage soit le meilleur possible. Voilà, c'est tout ce maillage du réseau. Et là, on sait que le réseau montpelliérain a des manques. Hein. Il y a un réseau en étoile qu'on est en train de compléter avec la ligne 5, ça c'est une bonne chose. Mais ce réseau en étoile, il n'est pas maillé. Donc vous êtes obligé d'aller au centre.
Alors qu'est-ce que vous appelez maillé?
Le maillage, c'est le fait qu'il y a des correspondances faciles, un peu comme vous prenez le plan du métro parisien. Voilà, vous avez un quadrillage total du territoire et c'est assez facile d'aller de n'importe où à n'importe où. en prenant des correspondances. Alors qu'à
Montpellier, c'est-à-dire que vous reliez les bras des étoiles.
Vous reliez les bras des étoiles, c'est ça. Vous faites une toile d'araignée, pas simplement une étoile, mais une toile d'araignée avec des lignes circulaires qui permettent de relier les bras des étoiles. Donc voilà tous les critères qui font qu'une ligne est attractive et qu'on prend les transports en commun et qu'on laisse la voiture. On peut résumer ça d'une formule. Est-ce qu'il vaut mieux un tramway gratuit toutes les heures à 20 minutes à pied de chez soi et qui s'arrête à 10 heures du soir, ou est-ce qu'il vaut mieux un tramway où vous allez payer peut-être une petite participation, mais qui va passer toutes les 10 minutes, qui va être confortable, qui va être sûr et qui va vous emmener rapidement où vous voulez. Je crois que si on pose le débat comme ça, on se rend compte que la gratuité seule, la gratuité telle qu'elle est vendue aujourd'hui, ça n'est pas la solution. Il y a même certains qui pensent que ça va prendre davantage des parts aux piétons ou aux cyclistes qu'aux voitures. Et ça n'est évidemment pas le but annoncé de l'opération.
Alors, Jean-Louis, donc on vient d'évoquer là un certain nombre, effectivement, de désagréments qui ne seront pas finalement résolus par la question de la gratuité, puisque, en fait, ce sont des mesures qui n'ont rien à voir avec le fait que ce soit gratuit ou pas gratuit. C'est l'ensemble de l'aménagement des transports qu'il faut prendre à bras le corps.
On peut même craindre une détérioration du service à cause de la gratuité.
Alors,
de moyens.
Justement, donc là maintenant on va aborder toute cette dimension financière. Alors, personne n'ose un peu s'élever contre le maire, mais... Clébert Messica, donc le responsable du département, se demande un peu comment le budget va être bouclé. On voit les gens de la TAM qui voient valser leurs responsables, leurs dirigeants. Il y en a eu trois cette année. On a un petit souci aussi de la part des gens qui finalement contrôlent les choses. Enfin bon, bref, cette gratuité...
D'abord, il faut dire que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Et en l'occurrence, c'est le contribuable montpelliérain. Et je vais y revenir, il va payer il peut payer de plusieurs façons différentes. Mais c'est la seule vérité qui a été énoncée dans le discours de Michael de la Fosse. C'est le gain en pouvoir d'achat immédiat pour quelques abonnés, quelques usagers du tram, qui vont avoir cette satisfaction de ne pas payer. Bon, d'abord, c'est assez limité parce que
alors,
il y avait déjà la gratuité.
On rappelle, c'est 30. Hein, c'est 30 euros pour finalement ceux qui payaient. Et comme vous alliez le dire...
La gratuité pour les moins de 18 ans, qu'on aurait pu étendre aux étudiants, ça, je pense que tout le monde l'admet. Pour les seniors, après 65 ans, on peut discuter. Ceux qui sont aisés, peut-être, pouvaient continuer à avoir un abonnement, même si on peut leur faire un abonnement favorable. Moi, j'étais pour des mesures familiales aussi, c'est-à-dire des tarifs familiaux. Mais la gratuité généralisée, c'est ça qui est problématique. D'abord, philosophiquement, ça se discute. Pourquoi la gratuité dans les transports? Pourquoi pas la piscine? Pourquoi pas la cantine? Voilà, c'est sans fin.
Alors, quand vous dites ça, parce que moi, j'ai fait un peu de radio-trottoir, et quand vous dites ça aux gens, les gens vous répondent « Ah, mais oui, mais on ne peut pas tout rendre gratuit. »
Justement.
Alors, voilà, pourquoi...
Mais pourquoi l'usager... Parce qu'il faut penser quand même, c'est le contribuable qui va payer. Donc, y compris ceux qui n'ont pas besoin du tramway ou qui n'ont pas de tramway ou de bus pour le trajet qu'ils prennent tous les jours. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, tout le monde va payer et ça va se faire soit avec une augmentation des impôts locaux, soyons clairs, qui sont déjà très élevés à Montpellier, soit avec une baisse des autres services. Et c'est ce qui se passe déjà. On voit bien qu'il y a des tas de budgets de fonctionnement qui sont diminués pour financer cette gratuité. Je vais vous citer un exemple qui m'a choqué. c'est la suppression des bus du savoir pour les écoliers de la métropole, qui permet de les emmener faire des visites scientifiques ou culturelles, sortir de l'école, et la métropole a voulu supprimer dès cette année. Devant la levée de bouclier, ils l'ont prolongé encore pour une saison, mais l'année prochaine, c'est fini. Et voilà, donc on va supprimer un bus de savoir pour des enfants qui parfois en ont besoin de sortir de leur école, de leur quartier, pour une gratuité généralisée qui, à mon avis, n'est pas la réponse au problème. Question, c'est est-ce qu'on pouvait vraiment se permettre cette gratuité actuellement, alors qu'il faut investir dans l'amélioration du service, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, sur les fréquences, le maillage, le confort, la sécurité, toutes ces questions qui font que réellement, on pourrait rendre attractifs les transports en commun.
Alors certains évoquaient le fait que peut-être on n'aurait pas les moyens de mettre en place la ligne 5. Finalement, elle va quand même avoir lieu.
La ligne 5, c'est en cours, c'est en train de se réaliser. Donc je pense peut-être qu'il y aura du retard dans les travaux.
Elle est un peu bloquée, là, pour l'instant.
Je ne pense pas que le principe en soit remis en cause. Mais ce n'est pas seulement la ligne 5. Vous voyez bien que c'était toute l'offre de bus.
Alors justement, pour en revenir à l'offre de bus, dans son intervention, Michaël Delafosse évoque le fait que Montpellier va devenir une espèce de modèle pour les villes, les collectivités locales. Il n'hésite pas d'ailleurs à prendre Dunkerque. Bon, c'est une situation que je connais assez bien. Et c'est vrai qu'à Dunkerque, les bus sont gratuits. Mais ce sont des bus. Et on ne peut pas dire qu'une ligne de bus coûte aussi cher que la construction d'une ligne de tramway, ni en construction, ni en entretien.
Oui, on n'est pas dans des agglomérations comparables. Dunkerque, c'est 200 000 habitants, ville et agglomération. Montpellier, on est à 500 000. On n'est pas dans la même densité non plus. C'est une ville qui est plus étalée, Dunkerque, et il n'y a qu'un service de bus. Ils partaient de beaucoup plus loin, donc la gratuité leur a permis de développer l'utilisation des transports en commun. À Montpellier, qui est déjà une ville dont les trams sont saturés, on n'a pas du tout la même problématique. C'est-à-dire qu'à Montpellier, en réalité, tous les experts le disent, et même ceux qui ont défendu la gratuité disent « mais s'il n'y a pas des investissements qui vont avec, ça ne servira à rien ». Et donc, pour moi, je ne suis pas contre la gratuité par principe. Je dis simplement que la gratuité, ça n'était pas la priorité. La priorité, c'est d'améliorer la qualité du service. Et c'est là-dessus qu'il aurait fallu consacrer les efforts budgétaires.
Alors, vous avez des responsabilités en tant qu'écologiste. Quelles sont les propositions que vous faites en termes de transport, par rapport à la situation montpelliéraine?
Par rapport à la situation montpelliéraine, la première chose, c'est ça, c'est améliorer l'offre de transport en commun par la fréquence, le maillage. On a oublié de parler aussi des villes qui sont un peu plus loin dans la métropole et qui n'ont pas d'offre de transport. Je pense Pignan, Cournon-Terral, Cournon-Sec, tout ce qu'on appelait l'enfer de l'Ouest, et qui n'aura pas le tramway non plus, puisqu'il va s'arrêter à Montpellier avant la Vérune. Donc tout ce secteur...
Vous savez que maintenant, le département n'a plus la responsabilité de transport qu'elle a été dévolue à la région. Donc ça voudrait dire, cette fois, on ne parle plus de la municipalité de Montpellier, mais on parle de la région, d'une manière générale.
Non, mais là, on est dans la métropole encore. Et c'est la métropole a l'autorité sur les transports dans tout son territoire. Et on aurait pu imaginer de reprendre les anciennes lignes de voie ferrée pour faire du bus, du train-tram, pour aller desservir ces communes. Parce que ça aussi, c'est des déplacements qui viennent engorger le centre de Montpellier. Donc il y a des tas de secteurs qui ne seront toujours pas des services. Ça, c'était une priorité, développer les transports en commun, mais jusqu'aux confins de la métropole, pour offrir des solutions aux gens qui aujourd'hui n'en ont pas, n'ont que la voiture. Donc ça, on ne le fait pas. On va finalement, on va booster des zones...
Ce sont ces gens qui sont demandeurs.
Et qui sont très demandeurs, bien sûr. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de booster, au risque de la saturation des réseaux qui existaient déjà, mais au détriment de réseaux qu'il aurait fallu construire, pas nécessairement avec du tram, ça peut être du train-tram, avec aussi du covoiturage, avec des bus tout simplement. Et ça, on ne va pas le faire. Donc améliorer la desserte, le maillage, la qualité du service en général. Ensuite, il y a une autre grande mesure qui, moi, me tient à cœur, parce qu'on n'en parle jamais, c'est que ça ne sert à rien de faire du développement de transport en commun si, en même temps, on aggrave la situation en continuant à densifier, à agréger le maximum de population et d'activité, de tout concentrer dans le centre de la métropole, c'est-à-dire Montpellier et le sud de Montpellier. Et malheureusement, c'est cette vision de l'urbanisme très concentrée où on fait toute l'activité économique, tout le commerce, tous les services sont au même endroit. Au lieu d'imaginer une métropole polycentrée, où on réduit les besoins de déplacement, on continue à aggraver la situation. Et en plus, on y met de la population aujourd'hui avec des logements supplémentaires. Je pense à Aude, à la mer, etc. Et donc, peut-être que le peu de gains qu'on va avoir grâce au réseau cyclable.
Et là, on retrouve en plus une problématique écologique qui est totalement complètement niée actuellement dans les plans d'expansion.
L'écologie, c'est nécessairement une vision globale.
Absolument.
On ne peut pas traiter la question des transports sans penser aussi de l'urbanisme, le commerce, l'économie, l'urbanisme au sens large, pas seulement le logement. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait à Montpellier. On a gardé le même modèle de développement, les grands travaux, la mégalopole en ligne de mire. Et évidemment, ça va continuer à aggraver la question des transports malgré tous les efforts qu'on fait. Donc il faut revoir l'ensemble du logiciel si on veut résoudre vraiment la question des transports.
Alors, vous savez que ça va être une énorme fête parce que vraiment, on va fêter le fait d'avoir réussi à tenir cette promesse électorale. À votre avis, est-ce que les gens vont s'apercevoir quand même rapidement des problèmes ?
Peut-être pas dans l'immédiat tout le monde, mais sur la durée, je crois que c'est le cas. Je suis désolé de le dire, mais en fait, le maire actuel et président de la métropole ne comprend décidément pas grand-chose à l'écologie. Pour lui, l'écologie, c'est les arbres à plusieurs millions d'euros sur la Comédie, au lieu d'une véritable végétalisation de la ville. Et maintenant, c'est la gratuité des transports en commun, plutôt qu'une véritable solution pour les transports montpelliérains. C'est des mesures chaque fois de communication, démagogique.
Il y a quand même des gens qui vont être contents quand même. 30 euros par mois,
voilà,
bon,
il y aura un petit gain de pouvoir d'achat. Mais les mêmes qui sont contents aujourd'hui, peut-être s'ils voient l'augmentation de leur impôt local ou l'augmentation de leur facture dans d'autres services municipaux, vont peut-être se dire que c'était un marché de dupes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.